Théologie naturelle, Père Philippe, 26 mai 83, Rimont.
Dans la recherche de l'existence de Dieu, Descartes n'est-il pas le premier à vouloir découvrir l'absolu par la raison elle-même, sans considérer l'autre? Seule la raison est faite pour le nécessaire, d'où le rejet des réalités contingentes. Nous allons voir. La réponse sera donnée progressivement. Je vous ai dit la dernière fois qu'il était important pour nous d'essayer de comprendre un peu la position de Descartes sur le problème de l'existence de Dieu, parce que je crois que c'est un grand tournant par rapport à tout ce que va représenter ensuite l'ontologisme, qui va naître de Descartes, et donc c'est important à ce point de vue-là, et que la réaction de l'ontologisme, c'est l'athéisme contemporain. Si on avait le temps, on verrait comment de Descartes naît l'ontologisme, et comment de l'ontologisme naît cette réaction très virulente des athéistes contemporains. Ce qui fait que le problème se pose à nous de l'existence de Dieu, si nous voulons le considérer au point de vue philosophique, à partir de cette réaction virulente des athéistes contemporains, des idéologies athées, qui naissent à partir de l'ontologisme. Vous voyez, je crois que là, il y a une vision de Sartre sur Descartes qui est un petit peu terrible, mais qui, je crois, est vraie. Quand Sartre, dans sa préface sur la nouvelle édition qui a été donnée de Descartes il y a quelques années sur les méditations, Sartre dit dans une préface que si Descartes était né à notre époque, il serait athée. Alors on peut dire évidemment que c'est une projection de Sartre sur Descartes, mais je ne crois pas. Je crois que c'est quelque chose d'assez juste. Ça ne veut pas dire que nécessairement Descartes aurait rejeté sa foi, mais ce qu'il veut dire, c'est que la conception qu'il a de Dieu n'est pas la conception du vrai Dieu. D'où, vous voyez, cette réaction qu'on voit très très bien, et c'est intéressant à voir, le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu des chrétiens. Si on entre dans Descartes, il faut essayer d'entrer dedans, Il y a quelques... Descartes est important pour nous parce que sur la philosophie française, Descartes a joué un rôle extrêmement important. Pendant de nombreuses années, Descartes était le dieu de la Sorbonne. On n'avait pas le droit de critiquer Descartes. Maintenant, c'est différent. Tout le monde passe au panier. Alors, même Descartes. Alors, il y a plus de dieu aujourd'hui. Les Olympes sont terminées. Alors, Descartes passe avec les autres. Mais il a été pendant de nombreuses années. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai encore connu ça. On n'aurait pas pu critiquer Descartes. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose par rapport à la dialectique. Dire que la dialectique, c'est une erreur, bon, alors attention. C'est la dialectique qui a remplacé Descartes. Alors, je vais essayer avec vous. Ce n'est pas encore imprimé, ce n'est pas sorti, c'est chez Teki, mais ça reste en panne. Alors, je suis obligé de prendre ce qui est asservi, si vous voulez, de point de vue d'études plus particulières. Donc, Descartes, 1596-1650, pour que vous ayez des dates à peu près. On attend, n'est-ce pas, le grand Bethléem donne l'autre Olympe des philosophes, comme on l'a donné pour les philosophies. C'est beau d'avoir une carte comme ça, au point de vue de l'histoire. Alors, c'est quand même utile de voir ça. Alors, comprenons bien que c'est dans les méditations qu'on devrait découvrir la position de Descartes par rapport à Dieu, où l'auteur se propose de traiter de Dieu et de l'âme humaine, et en même temps des fondements de toute la philosophie première. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Dieu et l'âme, ce sont les fondements de toute la philosophie première. Ben, ça, c'est... Pour nous, c'est la finalité, pour Descartes, c'est les fondements. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, vous regardez tout d'une autre manière. Mais ça, c'est très moderne. Et la finalité est remplacée par le fondement. Pour Descartes, en effet, ces deux questions de Dieu et de l'âme sont les principales de celles qui doivent être démontrées par la philosophie plutôt que par la théologie. Ce sont les fondements de toute pensée philosophique. Certes, dit Descartes, qui adresse ses méditations au docteur de la faculté de théologie de Paris, il est tout à fait vrai qu'il faut croire à l'existence de Dieu et que le Dieu qui donne la grâce de croire peut la donner aussi pour que nous croyons qu'il existe. Oui, mélange, hein, délicat. Il le dit carrément, hein, c'est au début des méditations. Il est tout à fait vrai qu'il faut croire à l'existence de Dieu et que le Dieu qui donne la grâce de croire peut le donner aussi pour que nous croyons qu'il existe. Mais tous les théologiens affirment que l'existence de Dieu peut être prouvée par la raison naturelle. Donc il reconnaît cette tradition au point de vue théologique. C'est intéressant. Parce que ce sera vraiment Luther qui va briser la tradition, ce que je vous ai déjà dit. Et ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. Et le docteur Angélique, dit-il, nie que nous puissions en avoir immédiatement l'évidence. Descartes ne cite pas souvent le docteur Angélique, hein, mais de temps en temps. Il ne cite pas non plus très souvent Aristote, mais de temps en temps. Alors le docteur Angélique et Aristote, ce ne sont pas des autorités pour Descartes, hein, il faut bien le comprendre. Les raisons par lesquelles Descartes prouve que Dieu existe et dont il demande qu'elles soient tenues pour de très exactes démonstrations, vous voyez que là, nous sommes en face de quelque chose de tout à fait nouveau, de très exactes démonstrations. Je pourrais vous donner la référence si vous voulez bien. C'est donc dans l'épître 7, enfin, si c'est peu importe, vous trouverez ça si vous le voulez. Sont, déclare-t-il, au nombre de deux, il n'y a que deux voies par lesquelles on puisse prouver qu'il y a un Dieu. Savoir l'une par ses effets, l'autre par son essence ou sa nature même. Donc il reprend la chose classique de saint Thomas, mais vous voyez bien, à la place de saint Thomas qui dit preuve imparfaite a posteriori, lui il dit il y a les deux voies. Et on comprend très bien que la voie par les effets est une voie imparfaite qui va se résorber par la voie de l'essence. Et enfin, tout est joué là. Une fois qu'on a compris ça, on comprend le passage de toute la grande tradition, même avec Occam. Occam n'a pas brisé là complètement la tradition, il a fait quelque chose de plus foncier par rapport à la tradition, puisqu'il a identifié métaphysique et logique, mais par rapport aux preuves d'existence de Dieu, Occam n'a pas été aussi loin que Descartes. C'est Descartes qui vraiment donne les conséquences de la position d'Occam et de Suarez. Parce que Occam et Suarez restent des théologiens, donc il faut attention. Vous voyez, Descartes n'est plus un théologien. Descartes est un philosophe, mais un philosophe qui est né dans le berceau des théologiens, n'est-ce pas ? Il ne faut pas l'oublier. Alors il y a quelque chose qui demeure, et c'est pour ça qu'il le dit. Ces deux preuves sont excitées pour la première fois dans la quatrième partie du discours de la méthode. Toutefois, Descartes n'y a pas dessein d'en traiter à fond, mais seulement comme en passant. Car la voie qu'il suit, pour les expliquer, est si peu battue et si éloignée de l'usage commun qu'il ne veut pas risquer de la voir empruntée par des esprits faibles. Voilà la prudence de Descartes. Il sait très bien qu'il est révolutionnaire en disant ça. Il le sait. Mais il fait attention. Il est prudent. C'est là où vous voyez, Sartre dit qu'il serait de notre époque, il aurait pu cette prudence-là. Alors c'est très intéressant de voir que dans le discours qui est écrit en français, donc le discours de la méthode qui est écrit en français, il est de cette prudence-là. Il sait très bien la voie qu'il suit pour les expliquer est si peu battue et si éloignée de l'usage commun qu'il ne veut pas risquer de la voir empruntée par des esprits faibles. Attention, ne scandalisons pas. Alors faisons attention. Rappelons rapidement le cheminement de cette quatrième partie du discours. Après avoir posé ce qui constitue pour lui le premier principe de toute la philosophie, il le dit explicitement, c'est-à-dire le cogito, et en avoir tiré le critère de la certitude, clarté et distinction des idées. Donc, si vous voulez avoir l'intuition de Descartes, ils disent là explicitement, hein, puisqu'il dit que le premier principe de toute la philosophie, c'est le cogito. Alors, c'est quand même intéressant de se rappeler ça. Et en avoir tiré le critère de la certitude, quel est le critère de la certitude du cogito? C'est la clarté et la distinction des idées. Descartes réfléchit sur le doute, quel était le moyen de mettre en pleine lumière le cogito. On se sert du doute comme d'une méthode pour mettre en pleine lumière le cogito. Le doute, vous comprenez, tout ce qui vient des sens, tout ce qui vient de notre expérience peut être faux. Donc, supprimons tout cela et découvrons où il y a la certitude la plus absolue. Alors, ce n'est plus la vérité qu'il cherche, c'est la certitude. C'est en ce sens-là qu'il est petit-fils des théologiens. Parce que chez les théologiens, c'est la certitude qui domine tout dans la foi. Ce n'est pas l'évidence. La connaissance de foi est plus certaine que toutes les autres connaissances. Mais elle est beaucoup moins évidente. Vous voyez, si je laïcise la pensée philosophique, la pensée théologique, qu'est-ce qu'il y a? Le primat de la certitude. Ça, je crois que c'est très très important de comprendre ça. Vous voyez, il y a deux aspects qui nous font comprendre comment Descartes est petit-fils des théologiens. C'est d'une part le point de vue des certitudes. Je dis ça pour que nous comprenions ce qui est dans la pensée actuelle. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas du tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. On ne comprend pas que toute notre philosophie est une philosophie laïcisée des théologiens. Il y a un faux. C'est du reste pour ça qu'ils sont si virulents, c'est évident. Ils ne seraient pas virulents de cette manière-là s'il n'y avait pas d'héros des théologiens. Alors, c'est d'une part la certitude, parce que c'est vraiment le point de vue de certitude, et d'autre part le point de vue du corps. Alors, qui commence la foi. La foi, c'est une connaissance plus certaine que toutes les autres connaissances, mais elle n'est pas évidente. Et c'est le point de vue du corps. Le comment de la science théologique à partir de la foi. Le pourquoi, non, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas le tiesti de Dieu, nous ne connaissons pas ce qu'est Dieu. Mais nous cherchons comment Dieu existe. Alors si je laïcise la théologie, laïciser la théologie, c'est donc retenir la certitude de comment. Et à partir de là, vous comprenez tout positivisme. Et au fond, c'est le positivisme qui va naître à partir de là. C'est le positivisme, vous le savez bien, qui est ce qu'il y a de plus fondamental dans la pensée moderne. Bien plus que le marxisme, hein. C'est le positivisme. C'est ça qui est le point de vue le plus difficile. Le plus difficile, c'est de convertir un esprit positiviste. Un esprit positiviste, c'est ce qui est le plus difficile à convertir. Un marxiste, si on ébranle son cœur, ça va. Tandis qu'un positiviste, il a un cœur dur comme de la pierre. C'est quasi impossible à ébranler. Hein? Et Rostand le disait, hein? Il le savait très bien, ça. Il savait qu'il avait été éduqué dans un milieu positiviste, et c'est pour ça qu'il avait tellement de peine d'en sortir. Et ça devient quelque chose de très difficile. Alors c'est intéressant de voir comment ça va naître de cette pensée de Descartes. Descartes n'est pas positiviste, faisons attention. Il est très loin de l'être. Mais de lui va naître le passage de la théologie par Descartes conduit à cela. Alors on découvre les petits enfants comme ça. Donc il va supprimer le point de vue par la méthode du doute, tout ce qui peut être ébranlé. Or, nos sensations peuvent nous tromper. Nous en avons l'expérience constante, que nos sensations peuvent nous tromper. Donc, il faut les rejeter. Et chercher où est le lieu de la plus grande certitude. Descartes réfléchit sur le doute qui a été le moyen de mettre en pleine lumière le cogito. C'est cette réflexion sur le doute, réflexion qui ne regarde plus le cogito, mais l'idée de parfait, qui conduit Descartes à affirmer l'existence de Dieu. Mais dans le cogito, qu'est-ce qui est plus certain? C'est l'idée de parfait. Mais la certitude ne peut être que dans le cogito. Je suis certain de cogiter. Avec à fermer vos yeux, boucher vos oreilles, et alors à ce moment-là, vous méditez. Et vous êtes certain de méditer. Et c'est la chose certaine. Sur quoi, c'est secondaire. Mais vous êtes certain de cogiter. Vous êtes certain de penser. C'est là, vraiment le lieu de la certitude, c'est la pensée. Ça, c'est très vrai, ça, faut le reconnaître. Si vous cherchez la certitude, vous direz, mais oui, c'est là que je suis certain de penser. Puis ensuite, dans la cogito, qu'est-ce qu'est le nœud? Alors, c'est l'idée de parfait. C'est cette idée de parfait qui va être la plus grande clarté. Et alors ceci va conduire à affirmer l'existence de Dieu. Le processus est le suivant. Puisque je doute, je ne suis pas parfait, car il est plus parfait de connaître que de douter. Alors, où ai-je donc appris à penser à quelque chose de parfait que je ne suis pas? L'idée d'être parfait est que le mien, d'où me vient-il? Donc, c'est cette idée de parfait que je possède en moi. Il est plus parfait de penser que de ne pas penser. C'est vrai, je peux le dire. Il est plus parfait de penser que de ne pas penser. Alors, cette idée de parfait, d'où ça vient? Moi, je suis dans le doute, donc je ne suis pas parfait. Je peux douter. Donc, il y a une imperfection en moi. D'où vient cette idée de parfait? Je ne puis la tenir ni du néant, ni de moi-même. Le plus parfait ne pouvant pas dépendre du moins parfait. Il reste donc qu'elle a été mise en moi par une nature plus parfaite que je ne suis. Une nature qui doit avoir en elle toutes les perfections dont je puis avoir quelque idée et qui en un mot est Dieu. Vous voyez, c'est ça, c'est le début, hein, c'est tout à fait son premier moment, la première élaboration de sa démonstration vis-à-vis de l'existence de Dieu. Le doute supprime toute expérience, mais me montre mon état d'imperfection dans l'ordre de la connaissance. Cet état d'imperfection dans l'ordre de la connaissance n'explique pas que j'ai l'idée de parfait. Il faut donc chercher la cause de l'idée de parfait. Vous voyez, le principe de causalité, il le ramène au niveau de l'intentionnalité. Et je crois que c'est ça qu'il faut saisir, parce que c'est à partir de là qu'on va comprendre tout l'ontologisme. Et chez Descartes, c'est très visible. C'est très visible le passage entre les deux. Vous avez l'idée de parfait en vous. Or, vous êtes imparfait, donc ça ne peut pas venir de vous, cette idée de parfait. D'où vient-elle? L'idée de parfait ne peut pas venir de quelque chose de moins parfait. Donc cette idée de parfait vient nécessairement d'un être qui est parfait. Un être qui est parfait, ça ne peut être que Dieu. Vous voyez la phrase par mode d'effet. Mais ce n'est plus l'effet qui existe. Donc le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Le jugement d'existence est mis entre parenthèses parce que le jugement d'existence dépend de le sens. Si le jugement d'existence dépend de le sens, je peux en douter. Mes sens peuvent me tromper. Donc je n'ai pas la certitude. Je dois donc mettre entre parenthèses le jugement d'existence. Alors à ce moment-là, quelle est la réalité la plus certaine que je saisis? Mon cogito. Le cogito. Dans ce qu'il a de plus parfait, c'est l'idée de parfait. Donc cette idée de parfait, comme elle ne s'explique pas par mon état d'imperfection, je dois poser un être antérieur qui est Dieu. Alors pour ceux qui s'intéressent au jugement d'existence, voyez la manière dont le jugement d'existence est volatilisé par Descartes. Et ce jugement d'existence est volatilisé par Descartes à cause d'Occam. Parce que pour Occam, le jugement d'existence est totalement dépendant des sensations. pour Occam et pour Suarez, est totalement dépendant des sensations. Alors, puisque les sensations peuvent me tromper, le jugement d'existence, on ne peut pas s'appuyer dessus, puisqu'on s'appuierait sur quelque chose qui peut être trompeur. Si je ne peux pas m'appuyer sur le jugement d'existence, je dois donc m'appuyer sur quelque chose qui est absolument certain en moi, le cogito. Ce cogito contient l'idée de perfection, donc j'oppose Dieu. Oui, le passage du jugement d'existence à l'intentionnalité. De plus, puisque je connais des perfections que je n'ai pas, je ne suis pas seul à exister. Il faut nécessairement qu'existe un autre être, plus parfait, dont je dépends. Car si j'avais été seul et indépendant, j'aurais pu me donner toutes les perfections qui me manquent. C'est bien évident, hein? Si j'étais le seul être qui existe, je me donnerais toutes les perfections que je peux rêver. Il n'y aurait pas de raison de ne pas me les donner. Pourquoi me priver quand j'ai des possibilités de me donner toutes les perfections? Mais je me donnerai toutes les perfections. Donc ça prouve que je suis limité. Et ça prouve que je dépends d'un autre être. Considérant ensuite la certitude des vérités géométriques. Alors ça, c'est le passage ensuite, hein, le prototype. On a une première preuve qui reste traditionnelle, mais qui est transposée. Je passe de l'exister à l'intentionnalité. Et c'est ça qui me semble le passage le plus important à saisir. Une fois que je suis passé de l'exister à l'intentionnalité, le cogito et l'idée de perfection, je vois ensuite qu'il y a un prototype, causalité exemplaire, un prototype de code de démonstration qui est plus certain que toutes les démonstrations. C'est la démonstration géométrique. Oui, c'est sur la certitude, hein. C'est ça qui conduit tout. Considérant ensuite la certitude des vérités géométriques, Descartes la compare à celle de l'existence de Dieu. Si je suppose un triangle, il faut nécessairement que ses angles soient égaux à deux droits. Cependant, rien ne m'assure qu'un tel triangle existe dans la réalité. Tandis que dans l'idée que j'ai d'un être parfait, l'existence même de cet être est comprise. De la même façon, et plus évidemment encore, qu'il est compris dans l'idée d'un triangle que ces trois angles sont égaux à deux droits. La réminiscence de Saint Anselme. Hein, vous le voyez bien. L'exister appartient à l'être parfait d'une manière encore plus profonde que lorsque je démontre en géométrie que, de fait, dans le triangle, ces angles sont égaux à deux droits. La propriété. Je vais démontrer ça. Tandis que lorsqu'il s'agit d'un être parfait, cet être parfait, s'il est parfait, s'il est le plus parfait qui soit, s'il est le parfait par excellence, nécessairement il existe. C'est une évidence du petit raisonnement de Saint Anselme. Hein? Parce que s'il n'existait pas, il pourrait y avoir un autre être qui lui existe et qui serait donc nécessairement plus parfait que cet être qui n'existe pas. Donc, l'être parfait nécessairement existe. Par conséquent, il est au moins aussi certain que Dieu, qui est cet être parfait, existe, qu'aucune démonstration géométrique peut l'être. Donc j'ai glissé de la démonstration a posteriori à la démonstration a priori. Et le glissement, c'est très extraordinaire de voir ça. Et c'est important parce que ça va jouer un rôle capital. Hein. À tel point que pour Kant, c'est la seule voie d'accès vis-à-vis de Dieu. Donc Descartes, en faisant ça, efface tout ce qu'il y a avant par rapport à la pensée moderne. Oui. Parce qu'il y en a très peu qui reprennent tout à partir du début. Et au fond, Descartes joue un rôle, justement, d'être celui qui est à l'origine de la pensée philosophique. De la pensée laïque, philosophique. Et alors, Descartes efface tout en faisant ça. Oui. C'est pour ça que je crois que ça, c'est très très important à bien saisir ce deux moments. Le passage de la causalité, du principe de causalité au niveau de la réalité par rapport à l'intentionnalité, et puis ensuite le prototype de la démonstration géométrique qui joue ce rôle si important. Par conséquent, il est au moins aussi certain que Dieu, qui est cet être parfait, existe, qu'une démonstration de géométrie peut l'être. L'existence des réalités sensibles est beaucoup moins certaine que celle de Dieu. Vous êtes tout à fait d'accord. Tout est inversé à partir de là. Puisque je ne peux toucher la réalité, son existence et le jugement d'existence que par les sensations, ce qu'a dit Occam. Mon contact avec les réalités extérieures, c'est uniquement les sensations. Ce n'est pas mon intelligence. Mon intelligence n'est pas présente dans mes sensations pour Occam. Et mon contact avec la réalité se fait uniquement par les sensations. Donc si mon contact avec la réalité n'est uniquement par les sensations et que les sensations, je peux les mettre en doute, par le fait même, c'est beaucoup plus certain de dire que Dieu existe, que cette fleur existe, que cette table existe. Et vous voyez comment on arrive à ça, hein, c'est ça qui est intéressant à voir, le glissement. Hein. Je le reprends pour que vous voyez bien ça, parce que ça me semble capital hein, pour comprendre la pensée moderne. Si on ne voit pas ça, tout reste en dehors de ce glissement. Ceci est traduit par un cas qu'il y a. Et c'est les sensations qui mettent en contact l'intelligence avec la res. L'intelligence comme telle n'est pas présente dans les sensations. L'intelligence est comme juxtaposée. Parce qu'on voit une juxtaposition successive. Donc, les sensations touchent, la reste est uniquement au niveau sensible. Et je ne connais pas ce que c'est que cette reste, puisque mon intelligence ne saisit pas. Donc c'est les sensations qui saisissent au sensible. L'intelligence, elle a conscience qu'elle pense. Et ça, quand on dit la première chose, la première chose que je connais, c'est mon intelligence. Donc c'est ma pensée. C'est mon cogito. C'est Occam qui a dit ça avant. Mais pour Occam, le jugement d'existence demeure. Tandis que pour Descartes, il n'existe plus. Et pourquoi n'existe-t-il plus? Parce que tout simplement, les sensations, je ne peux pas m'appuyer dessus. Les sensations peuvent me tromper. Donc je ne m'appuie plus sur les sensations. Je ne m'appuie plus que sur le cogito. J'allais dire, Descartes est plus logique que Occam. Occam, c'est hybride. Et Occam, étant théologien, maintient ce contact, tandis que Descartes dit non. Il ne peut plus, parce que les sensations peuvent me tromper. Donc, je m'enferme dans mon cogito. Si je m'enferme dans mon cogito, le cogito me donne une certitude absolue, et il a en lui l'idée de perfection. L'idée de perfection. Je la cassais dans moi, cette idée de perfection. Elle ne peut pas s'expliquer par moi, parce que je suis un être limité. Si je suis un être limité, je n'explique pas cette idée de perfection. Cette idée de perfection a donc une cause, un principe de causalité au niveau de l'intentionnalité. Puisque l'idée de perfection, c'est l'intentionnalité, c'est pas la réalité qui existe. C'est dans mon cogito l'idée de perfection. Donc on va faire jouer le principe de causalité au niveau de l'intentionnalité. Le glissement du principe de causalité qui normalement est au niveau de l'être et du devenir, selon Aristote, le principe de causalité va se glisser au niveau de l'intentionnalité. Et c'est par là que le principe de causalité chez Kant deviendra uniquement décédant et conséquent. Vous voyez comment, de fait, le principe de causalité va être complètement changé par Kant, parce que Descartes, lui, le comprend au niveau de l'intentionnalité. Au niveau de l'intentionnalité, c'est uniquement l'ordre. L'intentionnalité peut vous donner un ordre. Je vois que cette idée de perfection ne s'explique pas par mon intelligence, elle ne s'explique pas par mon cogito, ne peut pas s'expliquer par moi. Donc, il faut une cause qui est extrinsèque. Cette cause, ça ne peut être que l'être absolument parfait de Dieu. Donc il y a chez Descartes la confusion entre l'ordre d'intentionnalité et l'ordre d'exister. C'est la confusion qu'on retrouvera à travers tout notre vie. Ça, il faut bien le saisir. Hein, Faites un petit effort parce que ça, c'est très important pour comprendre tout le reste. Tout le reste de notre monde aujourd'hui, si on ne voit pas ça, on ne peut pas comprendre ce que représentent les idéologies athées. Tandis que si vous voyez là, vous voyez l'origine. Les erreurs ne se comprennent que par leur origine, hein, n'oubliez jamais ça. Parce que les erreurs en elles-mêmes sont inintelligibles. La seule intelligibilité pour avoir des erreurs, c'est leur origine. Et donc il faut comprendre l'origine. Si vous comprenez pas l'origine, vous ne comprenez plus. N'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas saisir. Tandis que si vous comprenez l'origine, ah, il y a quelque chose d'intelligible, il y a un devenir. Le devenir est intelligible dans les idéologies athées. Et les idéologies athées s'appuient sur ce passage-là. Alors vous avez Occam, puis Descartes, et à partir de Descartes, tout l'ontologisme et les oppositions, l'idéologie athée. Il y a une conséquence logique qu'il faut saisir. Donc, par le fait même, je comprends très bien qu'en fonction de cette forme d'intelligibilité, clarté et distinction des idées, qui avait été précédemment pris pour règle, n'est assuré qu'à cause que Dieu est ou existe, et qu'il est un être parfait, et que tout ce qui est en nous vient de lui. Donc l'existence des réalités sensibles est beaucoup moins certaine que celle de Dieu. Bien plus, le doute qui plane sur elle ne peut être levé que si l'on présuppose l'existence de Dieu. Car le critère de certitude, clarté et distinction des idées, qui avait été précédemment pris pour règle, n'est assuré qu'à cause que Dieu est ou existe, et qu'il est un être parfait, et que tout ce qui est en nous vient de lui. Alors, c'est ça qui est très, très, très curieux. On va poser l'existence de Dieu, et Dieu va être le critère de la vérité. Donc, on va se servir de Dieu. Dès que vous vous servez de Dieu, ce n'est plus Dieu. On ne peut pas se servir de Dieu. Ça prouve que Descartes n'a pas saisi Dieu. Il a saisi l'idée de parfait. Il a dit que cette idée de parfait existait. Et à partir de cette idée de parfait, il va fonder la certitude de la connaissance sensible par rapport aux réalités existées. Se servir de Dieu, oui, c'est ça que Sartre a très bien saisi. Il est malin. Il a très bien saisi que si on prétend se servir de Dieu, ça prouve qu'on n'a pas saisi Dieu. C'est impossible de se servir de Dieu. Donc se servir de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas saisi Dieu. Or, de part se faire de Dieu, et ça il faut bien le saisir, hein, l'exister des réalités sensibles est beaucoup moins certaine que celle de Dieu. Bien plus, le doute qui plane sur elle ne peut être levé que si l'on présuppose l'existence de Dieu. Car le critère de certitude, clarté et distinction des idées, qui avait été précédemment prise pour règle, n'est assuré qu'à cause que Dieu est ou existe, et qu'il est un être parfait, et que tout ce qui est en nous vient de lui. Ayant posé l'existence de Dieu, Dieu devient le critère de vérité. Et Dieu devient le critère de vérité sur lequel je m'appuie pour dire ces fleurs existent. Je peux dire avec certitude que ces fleurs existent que si j'ai déjà prouvé l'existence de Dieu. Et ça, il faut réfléchir là-dessus pour voir ce que ça représente, hein, comme manière de concevoir. Si c'était la fausse, ce serait parfait. Je pour le dire, hein, au point de vue de la foi, que c'est très vrai. Je peux affirmer que je suis une image de Dieu que dans la lumière de la foi. Et la lumière de la foi me donne un contact direct avec Dieu. Alors ce n'est pas la lumière de foi. C'est l'intelligence qui a prouvé l'existence de Dieu comme un être parfait. Et à partir de là, je dis grâce à l'existence de Dieu, je peux dire que ce que j'affirme du monde visible, du monde sensible, existe. Donc l'exister dans mon affirmé, le jugement d'existence par rapport au monde physique, dépend de mon affirmation de Dieu. Hein, point de vue jugement d'existence. C'est dans la troisième méditation que Descartes va développer ce qu'il considère comme son principal argument pour prouver l'existence de Dieu. Et cela sans avoir recours à aucune comparaison tirée des réalités corporelles. Un privilège, hein? Aucune des réalités corporelles. Parce que tant que je m'appuie sur les réalités corporelles, nécessairement, je m'appuie sur le sensible. Et le sensible ne me donne rien de sûr. Donc, sans avoir recours à aucune comparaison tirée des réalités corporelles, afin d'aider le lecteur à s'abstraire le plus possible des sens. Ça, c'est la philosophie de Descartes. Il faut vous abstraire le plus possible des sens. Vous comprenez ce que c'est que la sensibilité française depuis Descartes. Vous voyez bien, c'est intéressant à voir. La douche d'eau froide. C'est comme ça que Brangic commençait ses cours de philosophie. Messieurs et mesdames, mettez le sens commun à la porte, nous allons philosopher. C'est du Descartes pur. Oui. Aider le lecteur à s'abstraire le plus possible des sens. Puisqu'il a été reconnu précédemment que tout ce que l'on sent ou imagine n'est peut-être rien en dehors de celui qui sent ou imagine. Quant aux réalités arithmétiques ou géométriques, la seule raison que Descartes aurait d'en douter serait qu'un Dieu lui ait donné une nature telle qu'il se trompa même dans les choses les plus manifestes. C'est le point de vue, si vous voulez, d'Occam. Dieu pourrait faire que les vérités mathématiques soient fausses. Dieu pourrait faire ça, il est tout puissant. Donc, la seule manière de douter des réalités mathématiques, ce serait la toute-puissance de Dieu. Oui, vous retrouvez en calme le principe de toute-puissance de Dieu qui relativise tout. C'est pour ça que tant l'existence de Dieu, je ne peux rien affirmer, même les vérités mathématiques. Tout est suspendu donc à ce point de vue de la toute-puissance de Dieu. Je reprends. Puisqu'il a été reconnu précédemment que tout ce que l'on sent ou imagine n'est peut-être rien en dehors de celui qui sent ou imagine. Quant aux réalités arithmétiques ou géométriques, la seule raison que Descartes aurait d'en douter serait qu'un Dieu lui ait donné une nature telle qu'il se trompa même dans les choses les plus manifestes. C'est afin de pouvoir éliminer tout à fait cette raison de douter que Descartes doit examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'occasion s'en présentera. Tant que je n'ai pas prouvé l'existence de Dieu, je suis dans un monde du relatif absolu, d'une contingence absolue. Donc, je n'ai rien de sûr. Et au cas où Dieu existe, examinez s'il peut être trompeur. Car sans la connaissance de ces deux vérités, aucune certitude ne sera possible. Et le doute, ça va loin. Le doute méthodique de Descartes, ça va très loin. C'est tout relativisé, sauf l'existence de Dieu, et que Dieu ne peut pas me tromper. Les vieux restes de la foi, c'est très curieux, ça. C'est intéressant, oui, de faire la démarche parallèle avec Nietzsche. C'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose d'analogue. Hein, l'autre jour, quand on a vu Nietzsche, quand on relit Descartes, on retrouve quelque chose d'analogue. On retrouve des deux côtés le croyant. Mais le croyant qui n'est pas un véritable croyant et qui confond au point de vue de la foi et puis l'intelligence. Alors, si la foi disparaît, ben, qu'est-ce qui reste? Et ce que Descartes veut, c'est d'essayer de montrer une certitude qui existe en dehors de la foi. Donc, c'est afin de pouvoir éliminer tout à fait cette raison de doute que Descartes doit examiner s'il y a un Dieu. Si Dieu existe, ah, j'ai un roc. Mais si Dieu n'existe pas, tout est relatif. Donc je ne peux pas saisir la réalité sans avoir affirmé que Dieu existe. Suivant l'ordre qu'il s'est fixé, Descartes va diviser ses pensées en trois genres. Donc nous sommes dans la troisième méditation. Et c'est dans la troisième méditation qu'il veut donner son argument de façon absolue. Descartes va diviser ses pensées en trois genres. Idée, volonté ou affection et jugement. Voilà. Point de vue critique, c'est intéressant à bien voir ça. Comment, de fait, Descartes conçoit le domaine de l'intelligence. Donc il y a des idées, il y a des volontés ou affections et puis jugement. Afin de voir où il y a proprement vérité ou erreur. Il montre alors que l'erreur ne peut se trouver que dans le jugement et qu'elle consiste principalement en ce que je juge que les idées sont en moi, sont conformes à des réalités hors de moi. C'est là où est la vérité. C'est le passage de l'idée à la réalité. Savoir, et donc là, il y a un jugement de savoir si c'est conforme ou non à la réalité. Alors là, la vérité apparaît. Mais il n'y a pas de vérité dans les idées. Vous voyez le vieux reste scolastique. Dans l'appréhension, il n'y a pas de vérité. Vous retrouvez ça. La dépendance de Descartes par rapport à la scolastique, ça c'est très net. Or, parmi ces idées qui sont en moi, certaines semblent provenir de réalités existantes hors de moi. Je dois donc considérer quelle raison m'oblige à estimer ces idées semblables à ces réalités. Autrement dit, je dois chercher si parmi les réalités dont les idées sont en moi, il y en a qui existent hors de moi. Si je considère ces idées, non pas en elles-mêmes, comme des modes de ma pensée, mais en tant qu'elles représentent des réalités, je constate que ces idées diffèrent grandement entre elles, car certaines, celles qui représentent des substances, contiennent sans aucun doute plus de réalité objective que celles qui ne représentent que des modes ou des accidents. Mais il faut bien comprendre la manière dont la scolastique est digérée, et ce qui reste de la scolastique. Alors on distingue le point de vue de la représentation, la signification, mais vous voyez, à la place de dire signification, il dit représente. Mais en tant qu'elle représente des idées, confusion entre l'image et l'idée. Ça c'est net. Ce qui montre très bien que les idées, pour lui, sont saisies uniquement au niveau symbolique. Puisque de fait, ces idées représentent. Alors que les idées signifient. Alors on est en face de la représentation. Donc, mais en tant qu'elles représentent des réalités, je constate que ces idées diffèrent grandement entre elles, car certaines, celles qui représentent des substances, contiennent sans aucun doute plus de réalités objectives que celles qui ne représentent que des modes ou accidents. Donc vous retrouvez, au niveau de l'intentionnalité, la distinction substance et accident. Tout est repensé au niveau de l'intentionnalité. Tout est gardé uniquement au niveau de l'intentionnalité. Ces distinctions qui étaient des distinctions de la réalité, la distinction entre substance et accident, pour Aristote, pour saint Thomas, cette distinction est vue au niveau des idées. Donc au niveau de l'intentionnalité, exactement comme le principe de causalité. Vous voyez comment on est la phénoménologie. La phénoménologie naît à partir de ça, ça c'est sûr. Le monde réel, c'est l'intentionnalité. C'est pas autre chose, c'est le monde réel, premièrement le monde réel. Où le réel est premièrement vécu, c'est dans l'intentionnalité. Ce n'est plus la réalité. Vous comprenez la cérébralisation, À partir de là, si pour vous le réel, c'est ce que vous cogitez, ça va loin. Très loin, surtout quand vous cogitez fort. N'est-ce pas? Alors ça va très loin. Quand vous cogitez fort, vous cogitez des substances. Quand vous cogitez moins fort, c'est des accidents. Mais si vous cogitez très fort, c'est des substances. Et alors, ce que vous cogitez, c'est la réalité première. C'est le monde d'intentionnalité. Et c'est, je vous dis, c'est dit avec une naïveté prodigieuse. Et une espèce de simplicité, mais ça va de soi, c'est pas la peine de discuter. Et on veut être critique, c'est ça qui est le meilleur. Parce que si Descartes acceptait d'être naïf, ça irait encore. Mais il veut être critique, puisque tout repose sur la méthode du doute. Et alors, il met en doute les sensations, il met en doute notre jugement d'existence, ça n'existe pas, mais on ne met absolument jamais en doute la certitude du cogito. On ne met jamais en doute que les idées que j'ai peuvent être tout simplement des images. Donc le discernement entre les images et les concepts ne sont plus faits. L'idée représente le point de vue d'une idée artistique, où le point de vue de la signification et de la représentation sont identiques. Et on ne regarde même plus la signification, on regarde toute la représentation. C'est important, c'est un tournant Descartes, hein, c'est un grand tournant. C'est pas commode de remonter avant. Parce qu'on est influencé, c'est évident, on a tous reçu plusieurs coups de vernis cartésien. Hein. La pensée française est enfermée dans Descartes. Elle a beaucoup, beaucoup de peine d'en sortir, comme la pensée allemande est enfermée dans Kant. N'est-ce pas ? Mais la pensée française, alors on a peut-être un avantage sur les Allemands, c'est que Descartes est avant Kant. Alors ça a ce petit avantage. Pour retrouver Aristote, on a ce petit avantage. Alors, voyez bien cette division, parce que c'est toujours, n'oubliez jamais, hein, c'est toujours au niveau des divisions qu'on saisit une philosophie. Alors quand Descartes divise idées, volonté et jugement, nous sommes donc en face de ce qu'il y a pour lui de fondamental. Et ce fondamental, c'est le niveau de l'intentionnalité. Et les idées se divisent en idées, substance et accident, selon la représentation. Alors, selon la représentation, nous sommes donc là en présence de quelque chose de tout à fait fondamental. Car certaines, celles qui représentent des substances, contiennent sans doute plus de réalité objective que celles qui représentent que des mondes ou des accidents. De plus, celles par lesquelles je conçois un Dieu éternel, infini, etc., a certainement soi plus de réalité objective que celles par lesquelles je me représente, par lesquelles me sont représentées les substances finies. Alors on va aller plus loin, on va dire idées qui représentent les substances, dans les substances, il y a des substances infinies et des substances finies. Toujours au niveau des idées, toujours au niveau de l'intentionnalité. Oui, vous rejoignez là la grande idée de Suarez. Suarez commande toute sa métaphysique par l'idée de l'être, l'idée d'être, fini et infini. Vous vous retrouvez ici. Ça, c'est l'héritage suarésien qui est là. Et c'est la fine pointe. Hein, parce que c'est l'idée que j'ai des substances qui contient plus de réalité objective que l'idée de l'accident. Et l'idée de la substance infinie contient plus de réalité objective que l'idée de la substance finie. Ça va de soi. Donc, à partir de cette substance infinie que je porte en moi, j'ai donc le concept de Dieu. Si j'ai le concept de Dieu, j'affirme que Dieu existe. Alors, est-ce que nous avons vraiment une idée d'une substance infinie ? On n'a jamais posé la question, savoir si c'est de l'imagination ou pas. Vous voyez la construction, c'est ça qui m'intéresse, de voir comment on arrive à poser ça. Une fois qu'on a posé là, après tout est logique. Une fois que vous avez posé, que vous avez en vous l'idée de perfection d'une substance infinie, ben évidemment Dieu existe. Et alors il n'y a même plus besoin du principe de causalité, vous voyez, parce que Dieu est contenu dans cette substance infinie. Et vous avez tout l'ontologisme à partir de là.